La louange, ce n'est pas seulement des chants. C'est une communication avec Dieu. C'est lui exprimer notre adoration, notre reconnaissance, notre joie de lui appartenir. Sous l'ancienne alliance, avant que les plans de Dieu s'accomplissent dans le sacrifice de Jésus à la croix, cette communication avec Dieu était beaucoup plus compliquée. Il fallait respecter tout un tas de critères pour accéder à une communication directe avec Dieu. Et elle n'était pas offerte à n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Seul le souverain sacrificateur y avait accès. Seulement une fois par an et seulement dans le lieu très saint. Un lieu mis à part dans le temple. Regardez plutôt.
Donc alors, voici comment le souverain sacrificateur devait procéder pour la purification des péchés du peuple une fois par an, le grand jour du Yom Kippour. Pour commencer, le jour du pardon des péchés, tout le peuple devait jeûner. Donc ici, au centre, à gauche, c'est l'extérieur, avec l'autel des sacrifices. Au centre, c'est le lieu saint. Et à droite, c'est le lieu très saint, avec l'arche de l'Alliance. Donc alors, le souverain sacrificateur devait tout d'abord se laver avec de l'eau et ensuite revêtir des habits sacrés, soit une tunique de lin, une ceinture de lin, un caleçon de lin et un turban de lin. Ensuite, il faut 5 animaux. Un taureau destiné au sacrifice pour le pardon des péchés du grand sacrificateur, 2 boucs destinés au sacrifice pour le pardon complet et 2 béliers destinés au sacrifice complet. Le taureau est offert en premier pour le sacrifice des pardons du péché du grand sacrificateur. Ensuite, il remplit un récipient de braise prélevé sur l'autel qui se trouve dans le sanctuaire. Prend 2 poignées de parfum en poudre et emporte le tout au-delà du rideau de séparation dans le lieu très saint. Là, devant le Seigneur, il dépose le parfum sur les braises. La fumée qui s'en dégage enveloppe le coffre du document de l'Alliance avec son couvercle sacré. Ainsi, il ne s'expose pas à mourir. Il retourne ensuite à l'autel des holocaustes pour prendre du sang du taureau et retourne ensuite dans le lieu très saint. Une fois devant le coffre, il fait une aspersion avec son doigt sur le côté est du couvercle du coffre, puis 7 autres aspersions devant le coffre. Il ressort et tire au sort entre les 2 boucs à l'entrée de la tente de la rencontre. Pour déterminer lequel sera envoyé dans le désert et lequel sera sacrifié. Il égorge ensuite le bouc destiné au sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Il en emporte le sang au-delà du rideau de séparation et l'utilise, comme celui du taureau, pour faire des aspersions sur le couvercle et devant le coffre. Il quitte alors la tente et s'avance vers l'autel situé devant elle. Il trempe un doigt dans le sang du taureau et dans le sang du bouc et en dépose sur chaque angle relevé de l'autel. Il fait ensuite 7 aspersions sur l'autel. Il le purifie ainsi de l'état d'impureté causé par les péchés des Israélites et lui rend son caractère sacré. Ensuite, il impose ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes leurs transgressions, tous leurs péchés. Puis il l'enlèvera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. C'est de là que vient l'expression « bouc émissaire ». Il regagne ensuite la tente de la rencontre, où il ôte et dépose les vêtements de lin qu'il porte pour pénétrer dans le lieu très saint. Il prend ensuite un bain dans un endroit réservé au sanctuaire, revêt ses autres habits et va sacrifier 2 béliers. Un pour lui-même et sa famille, et l'autre pour le peuple. Puis, il brûle sur l'autel les morceaux gras des animaux en faire son sacrifice pour le pardon du... Et voilà.
Ouh là 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 là, mais c'est bien compliqué. Qu'est-ce que c'était compliqué à l'époque. Heureusement qu'on ne doit plus faire tout ça maintenant. Mais le plus dingue, c'est que c'est le même Dieu. Il n'a pas changé d'un pouce, lui. Quand Jésus a remporté nos péchés à la croix, quand il a été sacrifié à notre place, Dieu a détruit la barrière du péché qui nous séparait de lui. Il a permis que la communication avec lui soit possible pour tout le monde, tout le temps, n'importe où. Il suffit de s'adresser à lui, de lui parler comme on parle à un ami. Alors, profitons-en et élevons nos voix vers Dieu pour lui adresser nos louanges. Oh oui, mon Dieu, mon Père, merci pour cette communion qui est restaurée avec toi. Merci parce que dans ton immense amour, tu as voulu qu'il y ait une relation avec ta créature et tu nous donnes cette possibilité dans le sacrifice de ton Fils de pouvoir s'approcher de toi n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui. Sois loué pour cet acte d'amour et sois loué pour cette réconciliation entre toi et nous. Et sois loué parce qu'un jour on sera devant toi à admirer pleinement ta majesté et ta puissance. Amen. Dans la synagogue, la Bible nous dit que les Juifs lisaient des textes religieux, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Ils accompagnaient en général leur lecture par des explications pour mieux comprendre et mieux mettre en pratique l'Écriture. Voici une scène tirée de Luc 4 qui montre Jésus prenant la parole devant toute l'assemblée.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole que je viens d'annoncer est accomplie.
Donc Jésus lit un texte des Écritures, en l'occurrence il s'agit d'un passage d'Ésaïe, et il explique qu'aujourd'hui cette parole s'accomplit. Il explique que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, nous lisons également la parole de Dieu, la Bible, et nous passons aussi du temps à essayer de la comprendre et de la mettre en pratique. Alors on a plusieurs choses qui nous aident à la comprendre. Les prédicateurs qui nous font des messages pour nous expliquer un peu. Les commentaires bibliques qui sont là aussi pour nous expliquer. Les théologiens. Un petit exemple dans une des Bibles qu'on a avec les commentaires bibliques.
Apocalypse 3, 14 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc aujourd'hui, on a des Bibles comme celle-ci, avec des commentaires. Et donc je vais vous lire l'explication de ce passage. Laodicée était la plus riche des sept villes. Elle était réputée pour ses banques, pour la manufacture de la laine, ainsi que pour son école de médecine, qui produisait une pommade pour les yeux. Néanmoins, elle avait toujours connu des problèmes d'approvisionnement en eau. Un aqueduc avait même été construit pour en amener depuis des sources thermales. En arrivant dans la ville, l'eau n'était plus chaude, sans être pour autant agréablement fraîche. Elle était tiède. Pareille à cette eau attiédie, l'église a perdu sa ferveur. L'eau tiède et désagréable au goût. Devenue tiède, l'église de Laodicée rebute par son manque de saveur. Les croyants ne prennent pas de position. Leur indifférence les a conduits à la paresse. Ils ont négligé leur service pour Christ à tel point que leur cœur s'est endurci. Ils continuent pourtant à être satisfaits d'eux-mêmes, sans se rendre compte que cette attitude démolit l'Église. Il n'y a rien de plus écœurant qu'un chrétien de nous, dont le cœur est partagé et qui est imbu de lui-même. Ne nous mettons pas en tête de suivre Dieu à moitié, laissons Christ enflammer notre foi et nous conduire à l'action.
Très intéressant ces commentaires bibliques. Ensuite, à l'époque, Jésus parlait souvent au temple, au peuple, pardon, par des paraboles. Ce sont des images qui lui permettaient d'illustrer ses propos pour que ceci soit plus compréhensible. Voici un exemple.
C'est la parabole « Le semeur et les terrains », Marc 4, versets 1 à 9. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit, sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
De nos jours, on a parfois du mal à comprendre ces paraboles car elles étaient adaptées au public de Jésus. Nous, on a bien souvent besoin d'explications du contexte ou des coutumes de l'époque pour comprendre ces paraboles-là. Alors, si Jésus était en 2016 et qu'il nous avait dit des paraboles, ça pouvait ressembler à ça.
Mes chers collaborateurs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ?
Très bien.
Merci d'être venu. Alors voilà, je vais devoir m'absenter pour une durée de 5 ans, en Absurdistan. Et c'est pour ça que voilà, j'ai besoin de vous, mes meilleurs gestionnaires de fortune, pour pouvoir faire fructifier mon capital. Alors je vais vous remettre à chacun un chèque. Voilà.
Merci.
Voilà. Et je vais vous demander donc de faire votre maximum pour que ce capital puisse se développer. Merci et bon courage.
Merci.
Oula, 50 000 euros, c'est pas mal. Là, j'espère au moins pouvoir faire le double, hein. Surtout qu'en plus j'ai vu des actions en bourse, là, je parie qu'elles vont monter. Je vois pas comment pour être agir autrement. J'y vais de ce pas.
Moi, 20 000 euros, les actions sont un peu au-dessus de mes moyens. Bon, j'ai quand même une autre idée.
10 000 euros, j'ai aucune solution avec si peu. Je préfère mettre tout ça en sécurité.
Bonjour monsieur. Alors si je comprends bien, vous souhaitez faire fructifier votre capital actuel. Et je vous rappelle que vous avez déjà acheté pas mal d'actions qui ont bien monté. Donc vous avez un excellent flair. Alors là, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est un fonds qui contient des produits dérivés qui sont très performants. Et bon, la rentabilité de ce fonds, elle est estimée aux alentours de 58%.
58%. Bon, ça m'a l'air quand même risqué, mais non, je le sens bien sur ce coup-là. C'est où que je dois signer ?
Ici. C'est bien, vous êtes courageux. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir.
Les affaires tournent là, les actions ont bien monté. Ça n'arrête pas d'augmenter, le patron va être content.
De son côté, cette gestionnaire des plus discrètes, mais pas moins inventive et déterminée, a monté sa petite société dans le bâtiment.
En 2 ans, j'ai réussi à rendre ma société rentable. Et encore 2 chantiers signés cette semaine. Les bénéfices fleurissent.
Oula, quant à moi, en 2 ans, je n'ai toujours rien fait de concret. De plus, je n'ai pas d'idée. Mais en même temps, je connais l'intransigeance de mon patron. Si je perds son argent, je me ferai virer à coup sûr.
Me voilà de retour. Alors je souhaiterais que vous puissiez me faire un rapport détaillé des affaires que nous avions en cours.
Bon, comme personne ne se presse, je vais commencer. Alors pour ma part, donc j'ai bien investi en bourse et donc sur les 50 000 euros que vous m'avez confiés, j'ai réussi à doubler la somme. Donc maintenant je suis à 100 000 euros.
Fantastique, bravo. Écoutez, je suis vraiment satisfait de tout le travail que vous avez fait. Justement, on vient de mettre en place un nouveau département et c'est vous que je veux à la tête de ce nouveau département. Merci.
Donc, permettez-moi de poursuivre. La société que j'ai fondée avec les fonds que vous m'avez prêtés a également constamment augmenté ses bénéfices et au fil des années, avec de nombreux chantiers à son actif, et j'ai réussi à atteindre le montant de plus de 40 000 euros.
Bravo, bravo. Justement, je tiens vraiment à vous remercier pour ces placements intelligents et sur ce département que nous venons de créer, je vous propose de collaborer avec notre cher ami. Et puis je vous écoute, à vous.
Donc alors quant à moi, monsieur, je me suis personnellement chargé de mettre en sécurité votre argent. Donc elle se trouve maintenant dans un coffre sécurisé. Vous voyez par vous-même, le peu d'argent que vous m'avez fourni ne me suffisait pas pour le faire fructifier en effet. Toutes les solutions qui se feraient à moi me poussaient à prendre de gros risques, j'en ai donc pas pris. Et elle se trouve dans un coffre ici.
Je vous cache pas ma déception. Je vous avais confié ce capital et si on résume, en fait, en 5 années, rien ne s'est passé. Je vous avais donné un cahier des charges qui était pourtant simple et vous ne l'avez malheureusement pas respecté. Vous auriez pu au moins placer l'argent sur un livret A. Ça aurait été pas grand-chose, mais... Écoutez, voilà, je vois que vous avez... pas respecter ce qu'il y a des charges, et c'est pour ça que malheureusement, je vois que vous n'avez aucune utilité dans notre société, et je vous demanderai malheureusement de la quitter. Au revoir.
Alors, cette parabole de l'époque actuelle, ça vous parle ? Les évangiles nous relatent aussi que Jésus a souvent dû subir l'opposition des religieux, les pharisiens, qui avaient le cœur dur et n'étaient pas prêts à accepter ses paroles. Voici à quoi pouvait ressembler leur discussion.
Tu as vu ce qu'a fait ce Jésus ? Il ne respecte pas les lois. Il fait des guérisons le jour du Shabbat. C'est un scandale.
T'as raison. Il commence à m'énerver avec ses beaux discours. En plus, il se prend pour le Fils de Dieu. Quel blasphème !
Mais aujourd'hui, est-ce que nous n'entendons pas des médisances aussi parmi les chrétiens ?
Tu as vu la personne qui a prêché ? J'ai entendu dire qu'il était malhonnête dans son travail. Il arnaque ses clients pour gagner un peu plus d'argent. Et après ? Il ose prendre la parole devant l'église.
Mais oui, en plus il respecte même pas les limitations de vitesse sur la route. Je suis montée avec lui en voiture, j'ai cru que j'allais pas en sortir vivante. Non, franchement, c'est pas un bon chrétien.
Là, on voit que les circonstances sont différentes, les personnages ne sont pas les mêmes. Mais soyons honnêtes, nous aussi, n'avons-nous pas parfois des cœurs de pharisiens, hypocrites et pleins de critiques ? Comme nous le rappelle Jésus dans Luc 6, veillons à ne pas regarder la paille dans l'œil de notre voisin alors qu'il y a une poutre dans le nôtre. Mais regardons encore comment était le cœur des pharisiens. Dans cette prochaine scène, voyons ce que les pharisiens viennent demander à Jésus.
Maître, nous voulons voir un miracle.
Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas.
Jésus savait bien que le problème n'était pas le manque de miracles, mais la dureté et l'incrédulité de leur cœur. Et aujourd'hui encore, est-ce vraiment le manque de miracles qui empêche les gens de croire ?
Parce que t'as quoi en fait ?
Bah, j'ai un problème aux jambes et je dois porter des attelles.
Ah mais c'est grave ou pas ?
Ouais, un peu quand même.
Mais tu vas guérir ?
Bah non, je pense pas.
Mais tu sais, moi je crois en Dieu et c'est un Dieu qui guérit.
Bah... Non, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ?
Mais si tu y crois, eh ben Dieu te guérira.
Moi, j'y crois pas.
Ben, je vais prier pour toi et puis tu verras.
Ok, si tu veux.
Là aussi, on voit que l'époque ne change rien à l'incrédulité de l'homme vis-à-vis de Dieu. Quand son cœur n'est pas prêt à croire, aucun miracle ne pourra lui ouvrir les yeux. Jésus dit dans Jean, au chapitre 21, verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Notre culte touche à sa fin. On voit à travers tous ces exemples que notre époque est différente du temps de Jésus. Les façons de faire sont différentes, mais certaines choses ne changent pas. Paul nous dit dans Hébreux 13, au verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Il reste le même Créateur et le même Sauveur. Le cœur de l'homme ne change pas tellement non plus, se laissant si facilement aller à la critique et à l'hypocrisie. Alors laissons le Saint-Esprit transformer notre cœur et développer l'amour de Christ en nous. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes ses disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, avant les annonces, comme il n'est pas trop tard, tout à l'heure, les jeunes me disaient oh, « ce serait bien qu'on rechante encore un chant à la fin ». Et je pense qu'on a le temps. Vous ne connaissez pas trop, comme ça, ça vous donne l'occasion de l'apprendre un peu mieux.
Alors un grand merci au groupe de jeunes pour ce temps de culte qu'on a vécu ce matin. C'est intéressant de se faire bousculer un petit peu dans nos habitudes. J'aimerais juste dire pour les gens qui nous visitent, le culte n'est pas tout le temps comme cela. Voilà, on veut partager les annonces des deux semaines à venir. Mardi, la réunion de prière. Temps important, important pour l'Église, important aussi pour chacun de participer, de vivre ce moment ensemble, pour remettre les sujets à notre Dieu, se soutenir aussi les uns les autres et prier aussi les uns pour les autres. Jeudi, la chorale aura lieu à Saint-Genis, attention, à 8h, à 20h, ouais, ah ouais, paf, une petite erreur, c'était pour voir si vous suivez bien. Samedi, on a donc cette formation d'enseignement pour les enfants. Donc, si des personnes veulent encore se joindre, je crois que vous pouvez encore, il faut juste vous inscrire auprès de Fred et Nancy, donc, qui commencera à 9h. Dimanche prochain, il y a encore un changement. Il n'y aura pas de culte ici. On aura donc le culte en commun des différentes églises protestantes et évangéliques du Pays de Gex. Ce culte aura lieu à la salle de la Chenaille, à Échenevé. Si quelqu'un ne savait pas où c'est, vous pouvez me demander. C'est important aussi de participer, de connaître quels sont les autres chrétiens dans le Pidgex. On n'est pas isolé. Il y a d'autres églises et c'est important aussi que l'on puisse avoir des choses en commun. Donc le culte aura lieu à 10 heures, donc une demi-heure plus tôt que nos habitudes aussi. Donc le culte à 10 heures et il y aura aussi le thé-café qui aura lieu lui aussi à 9 heures. Voilà, on se lève un petit peu plus tôt, mais c'est aussi pour partager ensemble avec l'église élargie. Et puis, juste pour préciser, il y aura une garderie qui est organisée pendant le culte. Donc, la semaine d'après, on aura l'étude biblique, donc le mardi, qui est toujours sur le thème « S'enraciner en Christ ». Donc là, ce seront les chapitres 19 à 21 qui seront abordés, donc du bouquin. Les chapitres 19 à 21 qui sont sur le thème de l'Église. Ces informations sont aussi disponibles sur le site de l'Église, au cas où vous auriez un oubli ou un doute, quelque chose. Et puis le dimanche d'après, donc le dimanche 8 mai, sera un culte découverte. Donc, comme d'habitude à 10h30, mais un culte découverte. C'est important aussi d'y penser, de prier pour et de se préparer pour cela aussi. Je vous rappelle les flyers d'inscription pour le club d'été qui sont au fond de la salle, à distribuer sans modération. Voilà, déjà 52 enfants. Voilà, on se réjouit. C'est important de partager cela aussi. On veut aussi penser aux personnes qui souffrent aussi dans leur santé. Annelise avait rendez-vous mercredi à l'hôpital cantonal. Malheureusement, le médecin était malade. Ah oui, ça arrive, les médecins malades. Donc, le rendez-vous est reporté à demain après-midi. Donc, continuons aussi de prier pour Annelise. Ben, c'est intéressant de voir qu'on prie, il y a des réunions de prière, et puis il y a quand même des effets. Merci à notre Dieu qui est agissant et qui est présent aussi à côté de nous. Je vous rappelle aussi les inscriptions pour les Kanjab qui sont encore au fond, si vous voulez participer. Encore deux informations. Donc on organise un séminaire du 20 au 22 mai, un séminaire avec Emmanuel Meinlein sur le thème du combat spirituel. Et puis on avait la période du samedi après-midi qui est libre, puisqu'on a fait vendredi soir, samedi matin, samedi soir et dimanche matin au culte. Alors, on vous propose, pour ceux qui seraient intéressés, de visiter le musée de la Réforme, qui est très intéressant, qui est au centre-ville de Genève. J'ai proposé à Emmanuel Meinlein d'aller le voir, puisqu'il ne le connaît pas, puisqu'il est dans la région. Et puis, on s'est dit, si d'autres personnes veulent se joindre, ben c'est le bienvenu. Donc, si ça vous intéresse, faites-nous le savoir. On mettra peut-être un petit panneau pour savoir qui participe. Mais c'est une chose intéressante aussi à vivre ensemble. Et puis, plus loin, donc à la rentrée 2016, Horizon 9 remet sur pied ou réorganise un séminaire de développement personnel chrétien. Certains parmi nous y ont participé, c'est important. Voilà, ça repart pour une année. Donc avec Jacques Poujol et Cosette Fabrici. Donc il y a les petits flyers d'inscription qui sont dans les documents à côté de la librairie. Voilà, si quelqu'un veut y participer. Sinon, je ne sais pas s'il y aurait d'autres annonces qui auraient été oubliées. Sinon, comme chaque semaine, on vous invite à prier pour les chrétiens d'un pays dans lequel il y a de la persécution. Alors, pour la semaine qui vient, on vous invite à prier pour les chrétiens de Djibouti, c'est important. Et pour la semaine d'après, on vous invite à prier pour les chrétiens du Myanmar. Alors, Djibouti, c'est un petit pays dans la pointe, dans la corne de l'Afrique. J'imagine le pays 28, tout petit. Et puis, le Myanmar, c'est le pays qui est à droite de l'Inde, voilà. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Hébreux. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.